Salut, c'est Alexis. On est le 15 janvier 2025. Je vous parle en direct de Nantes. Voilà, je sais pas si c'est très intéressant que je vous dise là où je suis quand j'enregistre les épisodes, mais je risque de le faire parce qu'en plus je bouge quand même pas mal. Et donc voilà, je suis avec mes collègues de chez Contournement. Vous, c'est notre petite réunion mensuelle, malgré que je ne sois plus opérationnel, évidemment, je viens assister toujours un petit peu avec plaisir pour un petit peu apporter mes idées, ma vision stratégique et ma veille aussi, puisque c'est un de mes rôles désormais, c'est de partager un petit peu ma veille, puisque moi je passe beaucoup de temps et notamment je vous la partage aussi avec vous qui écoutez. Donc voilà, alors après cette longue intro, j'ai deux petits sujets aujourd'hui à vous partager. J'en ai un troisième, mais que je vais me garder un peu sous le coude. Le premier, c'est, vous en avez forcément entendu parler si vous êtes un petit peu connecté à l'IA. Sinon, eh ben, je suis content que ce soit moi qui vous l'apprenne. C'est un petit peu aussi pour ça que je fais ce podcast. Il y a désormais la possibilité de programmer des rappels dans ChatGPT. C'est une nouvelle fonctionnalité de planification de tâches. Alors, en soi, c'est une fonctionnalité que je trouve relativement triviale, mais qui montre quelque chose, qui nous donne des indices sur le futur. C'est ça qui est intéressant, c'est toujours ça, c'est les signaux faibles, toujours qu'on essaye un petit peu de suivre. Et donc là, c'est un signal faible quand même assez important. Donc, en gros, j'explique la fonctionnalité. Allez sur votre téléphone, allez mettre à jour votre application de ChatGPT. Alors pour l'instant, c'est que pour les gens qui ont des comptes payants, plus Pro et compagnie, quoi, ou Teams, enfin voilà, bon bref, si vous payez, vous avez accès, faut juste mettre à jour l'application. Et ensuite, il faut que vous lanciez un nouveau chat avec la version GPT 4o avec tâches planifiées, ça s'appelle. Si vous faites avec 4o normal, ça va pas marcher. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est que si dans une conversation que vous avez avec votre assistant, vous lui dites « rappelle-moi de faire ça demain », eh ben, vous aurez une notif sur votre téléphone, vraiment une vraie notif physique Android ou iPhone, avec la tâche que vous avez faite. Quand vous cliquez dessus, bah, vous allez ouvrir ChatGPT dans la conversation avec potentiellement des informations supplémentaires. En fait, c'est ça qui est un peu marrant, c'est que vous pouvez lui dire, vas-y, réveille-moi, envoie-moi une notif demain à 17h avec le résumé de, je sais pas, de fais-moi avec un poème en latin, quoi. Enfin, bon, je sais, c'est un exemple vraiment qui n'a aucun intérêt, mais là, tout de suite, c'est ce qui me vient seulement. Mais donc, voilà, vous pouvez dire avec une chanson que tu as fait sur le thème de la saison de l'été, quoi, ou de l'hiver, ou sur le thème de la neige, je vois pas. Donc voilà, et donc lui, il va vous faire ça, quoi. Alors, j'ai fait quelques tests rapides. Alors forcément, j'ai fait des tests un peu twistés, un peu bizarres, donc ça n'a pas forcément marché. Des fois, il comprend pas. En fait, il comprend qu'il doit faire un rappel, mais il comprend pas bien qu'est-ce qu'il doit vous rappeler, et donc en fait, ça le fait bugger. Mais avec des choses simples, ça marche. Et donc, en fait, c'est intéressant que ça intervient, alors que hier, on a eu justement une longue discussion avec Erwan, enfin, une conversation avec Erwan qui était intéressante sur le fait que, qu'est-ce que ça veut dire automatiser avec l'IA? Et en fait, c'est un peu ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, on va vous apprendre à automatiser avec ChatGPT. Or, automatiser, quand on utilise ChatGPT, vous faites manuellement, vous lui parlez, lui, il vous donne du texte, il vous génère du texte, quoi, il fait que ça. Et c'est pas automatisé. Pour moi, automatiser, c'est quand il y a des tâches qui se déclenchent à des moments de manière automatique, une notion un petit peu d'orchestration, et quand voilà, et donc on peut mettre de l'intelligence artificielle dans des automatisations qu'on fait avec Zapier, avec Make, avec N8N, avec ce qu'on veut, parce que ça, c'est ça qui est le moteur qui déclenche, et puis ils appellent les modèles GPT à des moments précis pour des tâches précises. Et donc là, on a des automatisations, mais c'est pas ChatGPT. ChatGPT, surtout, si on dit ChatGPT, ChatGPT, c'est l'interface conversationnelle, qui est fondamentalement manuel, puisque vous devez taper avec vos petits doigts, etc. Si on utilise les modèles GPT dans le cadre d'une automatisation, là, on fait de l'automatisation avec de l'IA. Mais ce n'est pas GPT qui automatise. Et bien là, on a le premier petit indice, justement, que ChatGPT va peut-être aller vers ça. C'est-à-dire que là, vous commencez à lui dire un truc qui va programmer, vous allez programmer ChatGPT, littéralement comme un programme, quand on programme son alarme, vous allez programmer ChatGPT pour lui donner une instruction qui va lui-même déclencher seul. Et là, c'est cette notion un petit peu d'autonomie où là, on est dans de l'automatisation. Vous créez l'automatisation, mais c'est ChatGPT qui va la déclencher. Cette automatisation, pour l'instant, elle est un peu triviale. C'est-à-dire, c'est un rappel d'une tâche, mais au moment où il déclenche, par exemple, la génération de ce poème en latin dont je vous parlais, et ben ça, quelque part, il va le faire d'une manière automatisée puisqu'il va le faire. Il l'a pas fait au moment où vous lui avez demandé. Il l'a fait plus tard, à une heure précise. Donc là, le seul déclencheur, pour les gens qui feraient un petit peu d'automatisation, on parle de déclencheur, de trigger en anglais. Et donc là, eh bien, on est voilà, un petit peu sur ce sujet, c'est-à-dire que là, maintenant, il y a un déclencheur temporel, qui est le déclencheur un peu le plus basique qu'on peut trouver dans Make, dans, dans Mitaine ou dans Zapier. Mais voilà, et donc on peut très bien imaginer que peut-être que la prochaine fois, dans quelques mois, dans quelques, je sais pas quand, quelques semaines peut-être à vitesse où ça va, on pourrait lui dire, bah, quand je reçois un email, tu vas me déclencher telle action. Vous voyez ? Alors ce qui est intéressant, c'est que ça, là, c'est ChatGPT qui a dégainé, ils ont dégainé en premier chez OpenAI, mais je l'ai déjà dit, moi je pense que par exemple, Gemini, Google sont très bien placés, vu qu'ils ont accès à toutes vos informations de votre téléphone, par exemple, pour lui dire, bah, quand, 15 minutes avant que mon prochain rendez-vous démarre, envoie-moi un résumé du sujet du rendez-vous, par exemple. Et alors là, on commence à arriver dans des trucs pour la productivité, pour l'organisation personnelle, qui peuvent être une tuerie incroyable, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est... Alors, peut-être que je vois trop loin, mais je crois pas, je suis pas le seul. J'ai eu mon ami Alexandre de 9X qui faisait un petit peu la même analyse. Lui, il utilisait même le mot « agent », ce mot « agent » que je vous dis que c'est un petit signal faible à chaque fois, un petit peu. Enfin, là, on n'est plus dans le signal faible. C'est-à-dire, l'agent, c'est le mot de l'année 2025. Sachez-le, je vous le dis encore le 15 janvier, vous allez entendre parler. Donc lui, il disait ça à la fin, ça, cette fonctionnalité-là, dans son petit post sur LinkedIn, il disait ça, cette fonctionnalité-là, c'est le début des agents d'OpenAI. On verra, mais oui, de toute façon, on se doute bien qu'ils vont vers ça, puisqu'ils ont aussi leur projet Operator, qui est un agent autonome sur votre ordinateur pour prendre le contrôle de vos applications. Là, on parle plus de choses un petit peu plus applicatives, cloud, c'est-à-dire vous lui parlez, puis il se déclenche tout seul dans le cloud à la bonne heure et vous fait votre rappel. Voilà, donc tout ça est très intéressant. Il y a un petit peu des subtilités, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça me paraît pas mal. Voilà, donc comme d'habitude, on peut en discuter. Allez sur le channel sur le Slack de NoCode France, sur le channel média, il y a XNoCode, et puis on peut en discuter. Je suis curieux de savoir si vous aussi, vous avez eu l'impression que c'est un signal faible, et puis peut-être que demain, je ferai ma matinale, on pourra aussi en parler tous ensemble, ça sera sympa. N'hésitez pas, 8h sur le channel Twitch de NoCode France. Voilà, donc ça c'était la news quand même, grosse news, même si c'est une toute petite fonctionnalité, c'est, je trouve, une grosse news. Deuxième news plus intéressante, donc il y a eu Mistral, dont je parlais récemment dans une de mes vidéos YouTube, allez voir, ils ont sorti une nouvelle version de leur modèle CodeStral. Donc Mistral, ils ont pas mal de modèles, des modèles commerciaux, des modèles open source, des modèles très spécialisés. Un modèle spécialisé sur le code qui s'appelle CodeStral, qui vient d'arriver en version 25.01. Qui est un modèle qui est un peu léger, puisqu'il est très spécialisé. Vous n'allez pas lui demander des trucs, autre chose que de générer du code. Donc, mais du coup, voilà. Et alors, moi, j'avais vu, c'est marrant parce que donc, je discutais hier, à chaque fois, en fait, je vous raconte un peu ma vie, mais en fait, c'est comme ça que je fais ma veille, c'est en échangeant avec des gens. Donc, hier, je discutais avec Valérian, que je salue au passage, et qui m'envoyait un petit leaderboard d'un outil qui s'appelle Aider. Alors, c'est un outil un petit peu comme Cursor, Bolt, etc., mais très, très geek. C'est en ligne de commande et tout, donc ça, je pense pas que j'en parlerai dans une vidéo YouTube. Mais ils ont un petit leaderboard. Je vous mettrai le lien, allez voir dans les notes. C'est assez intéressant parce qu'ils détaillent aussi un petit peu la méthodologie de comment ils classent les LLM entre eux. Et donc, ils expliquent qu'ils leur font faire 220 exercices de code, un truc comme ça. Et donc, dans ce leaderboard, en fait, CodeStral, malheureusement, apparaît assez loin. Mais ça, j'ai regardé avant qu'ils sortent la dernière version. Et donc là, dans la dernière version, dans le leaderboard de LM Arena, qui est une plateforme qui classe les LLM, les modèles de langage, eh bien, ils mettent le nouveau CodeStral en troisième position. Enfin, d'ailleurs, plus ou moins ex aequo avec DeepSeek et Claude 3.5 Sonnet. Donc, voilà, là, on voit, alors ça dépend un peu des versions. Après, je pense qu'il y a plein de leaderboards différents et ça dépend comment on essaie de les voir. Mais donc, on voit à nouveau que DeepSeek, là, le modèle chinois, est très bien classé. Ce qui m'étonne un peu dans le leaderboard, pour être honnête, de LM Arena, c'est qu'il n'y a pas O1. Or, dans le leaderboard de Aider, c'est plutôt O1 qui est en premier. Et c'est vrai que même moi, dans mes tests, bon, qui ne sont pas du tout qualité d'un leaderboard, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a un consensus pour dire que quand même O1 sur la génération de code, c'est quand même l'outil le plus avancé. Alors peut-être qu'il n'est pas utilisé dans LM Arena parce que je crois qu'il est limité encore en utilisation par API. Bon, peut-être c'est pour ça, je ne sais pas, je ne le vois pas dans le... En tout cas. Mais voilà, dans Shader, c'est lui qui est premier, et ça ne m'étonne pas. DeepSeek arrive deuxième aussi chez Shader, et Claude, Sonnet 3.5, arrive sur Shader. Pour moi, Sonnet 3.5, c'est la valeur sûre si vous voulez générer du code. Voilà, c'est un peu ça mon analyse. Ça fait des mois que ça, il y en a qui dépassent, c'est un peu cette course, mais quand même, Claude 3.5 Sonnet est quand même toujours bien placé, quoi. Donc c'est un peu la valeur sûre. Voilà, il faut que je prenne le temps d'aller investiguer plus DeepSeek, je vous dirai. Et O1, j'ai fait quand même quelques tests, et c'est vrai que quand même ça marche pas mal aussi, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, CodeStral, a priori, est quand même bien performant. Donc voilà, après, j'ai vu des choses un petit peu variées, mais voilà, mais encore une fois, hein, je trouve ça, c'est hyper difficile à tester, notamment sur la question de la génération de code, de toute façon, quand si vous n'êtes pas dev, vous n'allez pas vraiment voir la différence. Mais voilà, ça évolue très vite. Ce que j'aime bien, c'est que justement, comme je vois que Sonnet 3.5 se maintient toujours, ça me conforte dans l'idée que bon, par défaut, si on utilise ça, ça passe. Je suis un peu curieux d'aller voir DeepSeek parce qu'il est quand même pas très cher. Puis il y a toujours O1. Voilà. Voilà, un petit peu les news du jour. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous dis bonne journée, à bientôt pour une prochaine émission en podcast, ou alors sur YouTube, ou alors sur Twitch, ou alors dans la newsletter aussi que j'ai lancée. Vous trouverez tout ça évidemment sur mes sites. Et aussi, si vous voulez me contacter sur les réseaux sociaux, si vous ne voulez pas venir sur le Slack de NoCode France, vous avez le droit, même si c'est un super endroit, eh bien vous pouvez m'écrire sur Blue Sky, parce que Blue Sky ou LinkedIn, hein, mais les autres plateformes, je pense que là, avec tout ce qui se passe ces derniers mois, je pense que vous ne me trouverez plus là-bas, quoi. Allez, à plus tard, salut.